Bonjour. Lundi 15 mars, Sainte Louise, qui fut fondatrice des Filles de la Charité, morte en 1660. Louise est la nièce du chancelier royal Michel de Marillac et du maréchal Louis de Marillac, arrêtés tous deux et condamnés à mort par Richelieu après la fameuse journée des dupes du 10 novembre 1630. Fille naturelle d'un grand seigneur, elle est élevée par les religieuses dominicaines de Poissy. En 1613, mariée à un simple bourgeois, elle devient Mademoiselle Legras. Son fils Michel lui donnera beaucoup de soucis. À 34 ans, elle se retrouve veuve. Et c'est alors qu'elle rencontre Saint Vincent de Paul. Subjuguée par la charité contagieuse du prêtre, elle devient rapidement sa collaboratrice dans toutes ses actions charitables. En 1633, ils fondent ensemble la Compagnie des Filles de la Charité, appelée communément Sœurs de Saint Vincent de Paul. Louise, supérieure de la nouvelle communauté, oriente les sœurs vers tous les exclus de son temps. Elle crée alors des petites écoles pour les fillettes pauvres. Elle organise l'accueil et l'éducation des enfants trouvés. Elle développe la visite à domicile pour les malades pauvres. Elle envoie des sœurs auprès des galériens. Mais une passion l'habite. L'amour de l'homme créé à l'image de Dieu et racheté par le sang de son fils unique. Tout comme Monsieur Vincent, elle mourra à la tâche. Son corps repose à Paris, au 140 rue du Bac. Elle a été béatifiée en 1920 et canonisée par Pie XI en 1934. Et en 1960, Jean XXIII la déclare patronne de tous les travailleurs sociaux chrétiens. Rendant hommage à Sainte Louise de Marillac, à qui M. Vincent confia l'animation et la coordination des charités, le pape appelle à redécouvrir cette finesse et cette délicatesse de la miséricorde qui ne blesse jamais, ni n'humilie personne, mais qui relève, redonne courage et espérance. Le 15 mars 2017, le pape encourage une culture de la miséricorde à la suite de Saint Vincent de Paul. Durant de longues années, Louise de Marillac est une femme habitée par l'anxiété, la culpabilité. Du fait de sa naissance illégitime, hors mariage, elle est rejetée par sa famille, placée dans les institutions. À Paris, en 1660, Sainte Louise de Marillac, veuve, qui, sans négliger l'éducation de son fils, fonda les Filles de la Charité sous la direction de Saint Vincent de Paul et forma par son exemple ses compagnes aux soins des malades, à l'instruction religieuse des enfants pauvres, mais surtout, à la prière et à la confiance dans le Seigneur. Sainte Louise est donc la patronne des travailleurs sociaux chrétiens. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Louise. Mardi 16 mars, Sainte Bénédicte, qui fut Clarisse à Saint-Damien et succéda à Sainte Claire, et elle mourut en 1260. Elle rejoignit Sainte Claire au couvent de Saint-Damien à Assise. Elle lui succéda en donnant l'exemple d'une constante régularité et d'une stricte pauvreté. Elle figure, sous l'appellation bienheureuse, dans les Acta Sanctorum des Boulandistes. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Bénédicte. Mercredi 17 mars, Saint Patrick, Saint Patrice. Il fut confesseur, évêque missionnaire en Irlande et mourut en 461. À 16 ans, Patrick, jeune Gallois d'une famille chrétienne, est enlevé par des pirates et vendu comme esclave en Irlande. Il y passe 6 ans, puis s'enfuit et retrouve ses parents. Après un séjour en France où il est consacré évêque, il se sent appelé à revenir dans cette Irlande de sa servitude pour l'évangéliser. Il y débarque donc en 432 et multiplie prédication et conversion dans une population dont, par force, il connaît bien les coutumes et la langue. Au Roc de Cachel, lors d'un sermon demeuré célèbre, il montra une feuille de trèfle. Voilà la figure de la Sainte Trinité. Les figures de triade étaient familières à la religion celtique. Le trèfle deviendra le symbole de l'Irlande. On pense que la plupart des druides devinrent moines, adoptant la religion chrétienne, présentée avec tant de finesse et de conviction. Lorsque meurt Patrick à Armagh, l'Irlande est chrétienne, sans avoir compté un seul martyr, et les monastères y sont très très nombreux. Saint Patrick fut le premier primat d'Irlande, mais il fut surtout celui qui sut mettre dans l'âme irlandaise une tradition religieuse si profonde que chaque chrétien en Irlande peut, à juste titre, se dire l'héritier de Saint Patrick. C'était un Irlandais authentique. C'était un chrétien authentique. Le peuple irlandais a su garder intact cet héritage à travers des siècles de défis, de souffrances et de bouleversements sociaux et politiques, devenant ainsi un exemple pour tous ceux qui croient que le message du Christ développe et renforce les aspirations les plus profondes des peuples à la dignité, à l'union fraternelle et à la vérité. C'est ce que dira Jean-Paul II dans le discours au corps diplomatique le 29 septembre 1979. La Saint-Patrick est donc fêtée le 17 mars. C'est le jour le plus important de l'année pour les Irlandais du monde entier. Si officiellement l'Irlande n'a pas de fête nationale, la Saint-Patrick en tient lieu. Donc, né en Grande-Bretagne, Patrick fut capturé par des pirates irlandais. Ayant retrouvé sa liberté, il voulut entrer dans le clergé et retourna en Irlande, décidé à consacrer sa vie à l'évangélisation de l'île. Et ordonné évêque, bien sûr, il s'employa avec adresse et succès à faire connaître le Christ en s'adaptant aux conditions sociales et politiques du pays, et il organisa solidement l'Église jusqu'à sa mort à Down en 461. Il est le patron des ingénieurs et donc le patron des Irlandais. Il existe un dicton à la Saint-Patrick qui dit ceci. Sème tes pois à la Saint-Patrice, tu en auras ton caprice. Quand il fait doux à la Saint-Patrick, de leurs trous sortent les écrevisses. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Patrick, Patrice. Jeudi 18 mars, Saint Cyril, qui fut évêque de Jérusalem et docteur de l'Église, il mourut en 387. Originaire des environs de Jérusalem, il devint prêtre en 345, puis évêque de Jérusalem en ce IVe siècle, troublé par les querelles entre Ariens et orthodoxes. Il fut donc à trois reprises chassé de son siège épiscopal par les Ariens qui contestaient la pleine divinité du Christ. Il vivra en tout 17 années en exil. En 378, il revient enfin définitivement dans Jérusalem, déchiré par les divisions. Il prêchera inlassablement pour enfanter un peuple chrétien dans la ville qui connut la passion du Christ et de sa résurrection. Ce seront ces admirables catéchèses de la nuit pascale pour la formation des nouveaux baptisés. Il les faisait près des deux grottes mystiques, celle du tombeau du Christ, près du calvaire, et celle du mont des Oliviers. Elles lui ont valu d'être proclamé docteur de l'Église par Léon XIII. Le 27 juin 2007, Benoît XVI a consacré sa catéchèse à la figure de Saint Cyril de Jérusalem, qui fut donc un évêque de grande culture biblique. Il dit ceci. Cyril fut ordonné évêque en 348 dans le métropolite de Césarée de Palestine, Acacius Philo Arien, et qui pensait trouver en lui un allié. Bientôt, il fut en conflit avec Acacius, et pas seulement dans le domaine doctrinal, mais aussi juridictionnel, car Cyril défendit l'autonomie de son siège par rapport à celui de Césarée. Cela lui valut trois exils en 20 ans. Et ce n'est qu'en 378, après la mort de l'empereur philo-arien Valence, qu'il reprit définitivement possession de son diocèse, où il ramena unité et paix parmi les fidèles. On conserve de Cyril 24 catéchèses, précédées d'une catéchèse introductive. L'œuvre de Saint Cyril constitue une catéchèse systématique et réaliste consacrée à la renaissance du chrétien par le baptême. Au plan doctrinal, son œuvre établit un rapport symphonique entre les deux testaments, plaçant le Christ au cœur de l'univers. Dans sa catéchèse morale, il invite à la transformation des attitudes païennes en une vie nouvelle dans le Christ, tandis que dans sa catéchèse mystagogue, il pousse les nouveaux baptisés à découvrir dans les rites les mystères cachés. Pour cela, conclut Benoît XVI, une catéchèse intégrale qui implique le corps, l'âme et l'esprit, demeure fondamentale pour les chrétiens d'aujourd'hui. Demandons au Seigneur de nous aider à acquérir un christianisme complet qui englobe toute notre vie et fasse de nous des témoins crédibles du Christ, vrai Dieu et vrai homme. Il dut souffrir de la part des Ariens bien des injures et fut souvent chassé de son siège. Il sut néanmoins exposer admirablement aux fidèles, par ses discours et sa catéchèse, la doctrine orthodoxe, les saintes écritures et les mystères sacrés. Il mourut en paix en l'an 386. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Cyril. Vendredi 19 mars, Saint Joseph, époux de la Vierge Marie. C'était un juste selon l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 1, verset 19. Les évangélistes ne nous ont conservé aucune parole de ce juste. Le charpentier de Nazareth en Galilée, fiancé de Marie, la mère de Dieu, époux aussi discret que fidèle et chaste. Père nourricier et éducateur du Dieu le Fils, devenu homme parmi les hommes de ce village, il le fait tout simplement. L'ange lui avait dit « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. » Et Joseph prit chez lui Marie, son épouse. L'ange lui avait dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère. » Et Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et s'enfuit en Égypte. Il est un vrai fils d'Abraham. Il croit et fait ce que Dieu lui dit. Lorsque Jésus disparaît pendant 3 jours lors du pèlerinage à Jérusalem, Joseph accompagne la quête de Marie. Ton père et moi, nous te cherchions. Et Jésus redescend à Nazareth, soumis à celui qui, sur terre, a autorité paternelle sur lui. Dieu savait à qui il confiait son fils unique et sa mère, à celui qui était l'homme le plus capable au monde d'être la parfaite image du Père. Les Orientaux honorent Saint Joseph depuis toujours. Les Latins l'ont méconnu longtemps. Avec la lettre apostolique Patris Cordae, avec un cœur de père, François, le pape, rappelle le 150e anniversaire de la proclamation de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle. À cette occasion, une année spéciale Saint Joseph se tient depuis le 8 décembre 2020 jusqu'au 8 décembre 2021. Que Joseph nous donne la capacité de rêver et nous aide à nous rapprocher du rêve que Dieu a pour nous, dira le pape à l'église Sainte-Marthe. Saint Joseph est porteur de nos rêves. Saint Joseph a été déclaré le patron de l'église universelle et le pape Pie IX le fera le 8 décembre 1870. Le 18 décembre 2009, lors de son voyage en Afrique, Benoît XVI a présidé les premières vêpres de la solennité de Saint-Joseph. À la foule et à ses disciples, Jésus déclare « Vous n'avez qu'un seul Père. Il n'est en effet de paternité que celle de Dieu le Père, l'unique créateur du monde visible et invisible. » Il a cependant été donné à l'homme créé à l'image de Dieu de participer à l'unique paternité de Dieu. Saint Joseph illustre cela d'une façon saisissante, lui qui est père sans avoir exercé une paternité charnelle. Il n'est pas le père biologique de Jésus, dont Dieu seul est le père, et pourtant, il va exercer une paternité pleine et entière. Être père, c'est avant tout être serviteur de la vie et de la croissance. Saint Joseph a fait preuve, en ce sens, d'un grand dévouement. Pour le Christ, il a connu la persécution, l'exil et la pauvreté qui en découle. À tout moment, mais d'une façon particulière lorsque la fidélité est éprouvée, Saint Joseph rappelle à chacun le sens et la valeur de ses engagements. La vie de Saint Joseph, vécue dans l'obéissance à la parole, avec un grand P, est un signe éloquent que tous les disciples de Jésus qui aspirent à l'unité de l'Église. Son exemple nous incite à comprendre ce que c'est en se livrant pleinement à la volonté de Dieu que l'homme devient un ouvrier efficace du dessein de Dieu qui désire réunir les hommes en une seule famille, une seule assemblée, une seule ecclésia. En 2017, le 19 mars étant le troisième dimanche de carême, cette solennité avait été reportée au 20 mars. La solennité de Saint Joseph, il fut l'homme juste issu de la famille de David, qui a servi de père au Fils de Dieu, le Christ Jésus, qui a voulu être appelé fils de Joseph et lui a été soumis comme un fils à son père. L'Église vénère d'une manière toute spéciale le patron que le Seigneur a établi sur toute sa famille. Il est, dans l'histoire, l'homme qui a donné à Dieu la plus grande preuve de confiance, dira Benoît XVI à Yaoundé le 19 mars 2009. Saint Joseph est le patron des artisans, des charpentiers, de l'Église universelle et des pères de famille. Il existe un dicton à la Saint Joseph qui dit ceci. À la Saint Joseph revient la ronde, c'est-à-dire l'hirondelle. À la Saint Joseph, beau temps, promesse de bon an. À la Saint Joseph, Joseph, sème tes pouets, pois. C'est ce qui se dit dans le Poitou. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Joseph. Samedi 20 mars, Saint Herbert, qui fut ermite au milieu d'un lac en Angleterre et qui mourut en 687. Ami de Saint Cuthbert, il fut d'abord évêque de Lindisfarne en Angleterre et établit le rite de la liturgie romaine dans son diocèse. Il lui préférera reprendre la vie monastique au monastère de Melrose, de tradition irlandaise, et s'en fut solitaire dans la paix de Dieu. Et c'est là que Saint Herbert, son meilleur ami, venait rejoindre chaque année pendant plusieurs jours pour parler des choses de Dieu. Ils connurent la grâce de mourir à quelques jours l'un de l'autre et à la même heure. Tous les ans, la paroisse de Notre-Dame-des-Lacs de Saint-Charles célèbre une messe à la mémoire de l'ermite Saint-Herbert sur l'île du lac de Derwentwater. Très bonne fête aux toutes les personnes qui se prénomment Herbert. Dimanche 21 mars, Sainte Clémence, qui fut religieuse bénédictine et mourut en 1176. Devenue veuve du comte de Spanheim, elle se fit religieuse à l'abbaye bénédictine de Trèves en Rhénanie, où elle mourut. Elle distribua tous ses biens aux pauvres lorsqu'elle fut devenue veuve et se retira comme simple moniale à l'abbaye d'Aurès à Trèves, où elle mourut. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Clémence. À la semaine prochaine.